Nous sommes le mardi 25 juin, au lendemain de ce long congé de la fête nationale. Ici Chantal Lavoie, de nouveau cette année aux commandes de l'émission Aime l'été, votre émission estivale qui est de retour chaque jour de la semaine entre midi et 13h. Et ensemble, nous découvrirons une foule d'activités de visites intéressantes qui vont ponctuer cette belle saison, mais nous ferons aussi de merveilleuses rencontres. Nous nous pencherons sur des sujets de toutes sortes en lien avec l'été, mais dans une perspective toujours aussi inclusive. Je vous convie donc à ce beau rendez-vous quotidien à Aime l'été. Et au menu de cette toute première émission de la saison, on célèbre cette année les 50 ans du tout premier album du groupe Beau Dommage. On a lancé pour l'occasion un balado disponible sur la plateforme audio de Radio-Canada qui dissèque les chansons de Beau Dommage piste par piste. On en parle avec l'idéatrice du projet, Guylaine Marois. On s'en va aux Îles pour le Festival littéraire des Îles de la Madeleine. On en saura davantage sur la programmation 2024 de ce beau festival où les mots prennent le large. Et puis également l'émission, Rénal Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, vient nous parler de sécurité nautique. Rénal Hawkins qui a fait de la sécurité nautique son cheval de bataille. Mais on va commencer aussi avec Vacances de filles, avec Ève Morissette et Marie-Christine Richignolo. On part à la découverte des activités des plus beaux sites adaptés au Québec. Une émission présentée sur Ami Télé. Alors bon mardi à tous, voici notre émission Aime l'été. Ah, bienvenue à Aime l'été, bien heureuse de vous retrouver toute l'équipe. Bon, il y a une équipe renouvelée cette année, mais aussi on a notre collaborateur régulier, Mathieu Tessier, à la mise en onde et à la réalisation. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Oh, je suis contente.
Bonjour tout le monde.
Je suis contente de te retrouver.
Ben oui.
Alors, l'équipe de feu, composée de Nathalie Barrette, notre chef recherchiste, et de Clarence Robitaille-Meloche, mais aussi, en fait, qui est notre autre collaboratrice à la recherche. Alors, vous serez les filles, mes deux complices de l'été. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour Clarence.
Bonjour.
Alors, ça me fait plaisir. On va t'entendre régulièrement. Tu vas quand même nous parler de toutes sortes de sujets au cours de l'été. Et toi, Nathalie, ben, tu vas me seconder. Tu seras là toujours, même en studio.
Je serai là avec toi.
Ouais.
Tous les jours, je l'espère.
C'est pas merveilleux, ça?
Ouais,
j'ai pratiquement une co-animatrice. Alors, c'est merveilleux. Donc, ben, vraiment, on pourra échanger sur plein de sujets et puis, bien sûr, rebondir aussi sur, avec nos invités et tout. Alors, très intéressant. Et aujourd'hui, on est gâtés. Alors, merci pour ces beaux sujets. D'abord, évidemment, cet album Beau Dommage dont on va parler, ben, c'est-à-dire le balado qui va nous parler de ces retrouvailles, en fait, les membres de l'équipe, hein, enfin, qui nous parlent de leurs beaux souvenirs, des anecdotes lors de l'enregistrement de ce premier album, enfin, qui a maintenant 50 ans. Alors, évidemment, on s'en va aux Îles-de-la-Madeleine, ça va être merveilleux, festival littéraire, hein, quoi de mieux. Et puis, évidemment, on va parler de sécurité nautique. Alors, c'est ça. Vous avez passé un bon début d'été, les filles?
Oui, excellent, franchement. C'était la fête hier.
On s'en est bien tiré.
Ben, la température était bonne ici, malheureusement. Ben, en fait, à Montréal, c'était bon, mais à Québec, je crois que les gens ont passé la célébrité avec...
C'est-à-dire que ça avait lieu samedi soir.
Oui, samedi.
En fait, on a pu avoir la deuxième partie du spectacle, mais enfin...
Ouais.
Alors,
on a été chanceux à Montréal.
C'est merveilleux. Et puis, bon, alors, sécurité nautique, évidemment, la plupart des piscines maintenant sont ouvertes dans les différentes municipalités. Certaines ont pris même de l'avant, un peu d'avance, c'est-à-dire... compte tenu qu'avec ces chaleurs-là qu'on attendait. Alors, voilà, on va parler de tout ça et puis bien d'autres choses. Merci, les filles. Et puis, bon, Nathalie, tu restes avec moi en studio. Et puis, on se retrouve un peu plus tard, Clarence.
Merci.
Et on va commencer avec notre premier sujet. Alors, on parle, bien sûr, de cette émission Vacances de filles avec nos deux complices sur Ami Télé. Eh bien, j'accueille à l'instant nos deux complices sur Ami Télé, c'est-à-dire Ève Morissette, Marie-Christine Richignolo. Bonjour à vous deux.
Allô!
Alors, c'est vraiment pour parler de cette belle émission, Vacances entre filles. Là. Tout à l'heure, j'ai dit Vacances de filles, mais c'est Vacances entre filles. Alors,
oui.
C'est vraiment une émission qui porte un regard inclusif sur le tourisme au Québec. Alors, c'est diffusé tous les lundis à 20h sur Ami Télé. Évidemment, une émission qu'on peut aussi revoir en rattrapage.
Oui, et sur le site web de Ami Plus, entre autres. Puis on a toujours l'émission suivante, donc on a une primeur sur le web, oui.
Alors, c'est 7 épisodes de 30 minutes. Est-ce que vous avez déjà enregistré toutes les émissions?
Oui, on a fait ça l'été dernier, du mois de juillet à septembre. Donc, oui, tout est gagné déjà. Oui.
Alors donc, vous explorez les destinations touristiques adaptées aux personnes en situation de handicap. Alors, dans le cas de d'Ève, ben, tu es en fauteuil roulant. Et Marie-Christine, toi, tu es non-voyante. Alors vraiment, vous vous complétez. Ève, tu es les yeux de Marie-Christine et Marie-Christine, tu pousses le fauteuil, quoi. C'est un peu ça, dans
c'est
une
ça,
certaine
en fait,
mesure.
Ouais. Il y a une complémentarité qui s'installe, puis c'est qu'on voulait faire ressortir des multiples facettes de l'accessibilité, parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité de nos jours, et c'est tant mieux, j'en suis très contente, et je pense que Marie-Christine aussi, mais l'accessibilité dépend toujours du handicap, des besoins que tu as pour t'adapter. Donc, que ce soit un fauteuil roulant, que ce soit un trouble de vision, les besoins ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes non plus.
Non, c'est ça. Puis vous pouvez partager vos propres, enfin, vos différentes expériences par rapport, bien sûr, aux activités comme telles. Avez-vous eu du mal à répertorier des activités adaptées là, à travers le Québec?
Du mal, non, mais de trouver vraiment des activités vraiment accessibles, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est rare, je dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais c'est rare des activités qui sont 100% accessibles où t'as pas besoin d'une aide humaine, d'un accompagnement X. Et c'est ça qu'il faut aller vérifier, c'est de dire, on peut peut-être pas tout modifier, on peut peut-être pas tout rendre accessible, mais est-ce qu'on a les ressources en place pour pallier à ces difficultés-là? Je ne sais pas, Marie, aussi, tu peux en parler plus que moi, hein, tu as besoin que quand tu te retrouves dans un lieu X, tu as besoin d'un accompagnement parce que tu vas pas où tu vas. Je veux pas parler pour toi, là, mais... Est-ce que Marie-Christine, t'es là?
Est-ce qu'elle est bien au bout du fil, Marie-Christine?
Je pense qu'on a perdu.
Je pense qu'on l'a perdu.
Ah, ben, je vais me permettre de me faire son porte-voix.
Ouais.
C'est que Marie-Christine...
D'ailleurs, il faut dire que Marie-Christine aussi, elle devait se rendre à l'hôpital pour son enfant. Alors, c'est sûr que pas facile, évidemment, les communications toujours. Là.
Non, on comprend, puis c'est la beauté des deux, on peut se relayer. Mais c'est ça, donc, Marie-Christine, qui est non-voyante depuis seulement 6 ans, ben tu sais, pour aller dans un lieu, elle a besoin, si elle n'est pas accompagnée de quelqu'un de son entourage, elle a besoin de quelqu'un pour la guider, pour lui dire, la diriger comme telle. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, on est allé entre autres au lac Beauport, à une plage, comme je dis souvent, pour un fauteuil roulant, ben, du sable, ça reste du sable. C'est un beau vouloir adapter, mais il faut un fauteuil spécial sur lequel tu ne peux pas te pousser. Donc, ça prend quelqu'un si tu n'es pas accompagné comme personne. Donc, c'est vraiment de voir l'accessibilité, mais le côté humain, puis les ressources qui sont mises en place pour aller... pour pallier à ses besoins d'accessibilité.
Exactement, parce que pour elle, ben, évidemment, c'est quand même relativement récent par rapport à son handicap, mais tout de même, elle a dû s'adapter. Et puis, c'est très sensoriel dans son cas. Hein. Ça peut être le toucher, les odeurs. Alors, c'est vraiment autre chose que tu peux partager avec elle.
Exactement. Donc, c'est de décrire et c'est de dire de surtout pas m'aider ta gauche puis ta droite, ce que je faisais régulièrement,
ouais.
Parce que ça peut changer la direction de l'aventure. Donc, mais c'est vraiment, puis il faut dire que c'était la première fois que Marie se promenait autant depuis qu'elle a perdu la vision. Que oui, c'était tout un défi, mais on se rend compte que vraiment les gens sont très humains. Il y a une volonté de vouloir aider, il y a une volonté de vouloir faire participer des gens qui ont une différence physique ou autre à l'expérience. Donc, il y a une belle ouverture en ce moment dans l'offre du tourisme. que moi, ça fait quand même 48 ans que je suis, née avec la paralysie cérébrale. Donc, j'ai été à même de voir toute l'évolution, puis je peux juste me réjouir là, de voir cette belle ouverture d'esprit-là.
Exactement. Ben, j'imagine qu'il y a encore bien des défis à relever, forcément, mais bon, vous êtes en mesure d'en témoigner, d'ailleurs, mais vous avez quand même choisi des endroits où, bon, il y a quand même du support. Souvent, il peut y avoir des guides sur place. Enfin, on a développé l'infrastructure nécessaire. Il y a un organisme, d'ailleurs, qui roule, hein, qui vraiment a compté beaucoup dans l'équation aussi, hein? Pour l'industrie du tourisme à se développer à ce niveau-là.
Ils ont fait beaucoup, beaucoup pour la sensibilisation, pour donner de l'information, donner du soutien aussi. Et encore à ce jour, on a fait une entrevue avec eux dans le premier épisode. Encore à ce jour, ils sont là. Si un organisme ou un attrait touristique, un lieu ou etc. veut besoin d'aide et ne sait pas trop comment s'aligner et se diriger vers le monde de l'accessibilité, bien qu'ils sont là en soutien aussi pour accompagner les gens. Ouais.
Alors, vous nous invitez à réfléchir à tout ça à travers cet épisode. Vous baladez à Victoriaville avec des escapades très intéressante aussi de ce côté-là, les Laurentides, enfin, Vieux-Québec également aussi. Alors là, il y a toutes sortes d'autres enjeux à ce niveau-là quand on est en milieu urbain, souvent. En Estrie, vous êtes à Montréal aussi. Montréal, ben, c'est la culture. Et puis, il y a plein d'activités des fois auxquelles on ne pense pas. On pense aux expériences sonores immersives aussi, au Centre Fils. Vous avez fait ça, entre autres.
Oui, on a fait ça. C'est fort intéressant, surtout pour Marie-Christine, qui vraiment avait, ça faisait appel à son sens de l'audition. Et moi-même, j'ai trouvé ça assez, c'est assez captivant. C'est vraiment intéressant à explorer. Puis l'introspection que ça peut créer aussi. Ici à Montréal, on a fait, moi je savais même pas que ça existait, et Marie non plus, une pièce de théâtre en audio-description.
Ah, c'est donc, ça, exactement.
C'est vraiment génial. Là,
c'est ça, au Théâtre du Rideau Vert. Ouais.
Oui, exactement. Ouais. Donc, il y a vraiment une volonté de vouloir offrir plus et être plus inclusif là, dans l'offre de service.
D'ailleurs, au Rideau Vert, c'est ça, on fait même une visite tactile du décor. Alors ça, c'est intéressant aussi.
Oui,
donc,
c'est vraiment
représentation
intéressant.
Théâtrale adaptée. Mais il y a plein de belles découvertes aussi, alors que ce soit des gîtes. Évidemment aussi, je pense à l'Orpailleur, le vignoble, qui aussi intègre des personnes avec des limitations au sein, je pense, de leur équipe.
Oui, ben il y a différents vignobles qu'on est allé visiter, vous allez voir ça, où eux-mêmes se proposent d'engager de la main-d'œuvre avec des gens en situation de handicap. Donc c'est vraiment quand je vous dis qu'il y a une ouverture, qu'il y a vraiment une volonté de vouloir, c'est pas parfait, mais moi, je dis quand il y a la volonté humaine et l'ouverture d'esprit, ça peut soulever des montagnes. Donc,
exactement. Ouais. Alors, plein d'activités, on pense au yoga adapté. Enfin, c'est un regard inclusif sur l'industrie touristique au Québec, là, sur le tourisme. Alors, c'est vraiment intéressant. Produit par KOTV. Et puis, vacances entre filles. Alors, est-ce que ça... Justement, j'ai ma collaboratrice avec moi, Nathalie Barrette. Alors, ça nous donnait pratiquement le goût, de vous accompagner, les filles.
Ouais.
Il y a tellement une belle complicité entre vous. Je ne sais pas, vous vous connaissez depuis combien de temps, mais c'est très beau de vous voir ensemble.
Ah, ben merci, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Puis nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment un world trip de filles. Puis on avait le goût d'amener le monde avec nous. C'est ça qu'on voulait recréer. Puis c'est ça qu'on a réussi à créer. Puis oui, il y a vraiment une complicité. Ça fait seulement un an. On s'est connus par l'entremise de ce projet-là. Ça a vraiment a fallu se faire confiance mutuellement. Puis quand tu es dans ces paramètres-là, ben je pense que ça crée un abandon puis un sentiment de confiance qui s'installe dès lors Donc, c'est ça.
Mais bravo, c'est de toute
bravo,
beauté.
Bravo à vous deux, même si on a perdu au téléphone Marie-Christine. Là.
Ah, je suis sûre qu'elle nous écoute.
Oui, c'est ça. Ben, alors, bien dommage, mais enfin, salut là de notre part. Et donc, ces vacances entre filles, c'est sur Ami Télé à 20h le lundi. Alors, ça
Exactement.
A été présenté dès le 10 juin, donc c'est en cours. On peut faire regarder en rattrapage aussi. Alors, merci beaucoup
merci.
D'être venu nous
merci
en parler.
Merci de votre invitation. Bon visionnement.
Merci.
Au revoir.
Alors oui, donc Nathalie Barrette, oui, ça nous donnait vraiment le goût d'écouter. D'ailleurs, j'ai écouté la série, tout à fait, c'est vraiment très intéressant. Et puis, ça nous fait découvrir des choses aussi qu'on peut faire nous-mêmes. Hein, c'est vraiment chouette.
Exactement.
Alors oui, alors c'est cette vision inclusive du tourisme très important. Ben là, on s'en va aux îles. On s'en va aux îles de la Madeleine, 8e édition de ce festival littéraire sous le thème de passage. Bonjour, alors j'accueille mon invitée là qui, ben écoutez, je vais juste donner son nom, Alice Pierre, voilà, organisatrice événementielle sur site de la Côte. Alors bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Alors ben vous êtes loin de nous, mais on sent la mer quand même. Je sens l'odeur, l'air frais, l'odeur des îles. C'est merveilleux. D'ailleurs, quel temps fait-il aux îles présentement?
Oh, aux îles, ben, c'est venteux, mais bon, c'est assez fréquent que ça soit venteux.
Oui,
on a un peu de grisaille, mais ça fait du bien après tout ce soleil. Et puis, on espère bien que nos invités du festival littéraire vont nous ramener un peu plus de chaleur.
Eh bien oui, parce que ça commence très bientôt. C'est du 28 au 30 juin, donc 8e édition. Alors, un festival quand même qui a déjà fait ses preuves et puis enfin qui est déjà bien connu. D'ailleurs, festival littéraire, vous avez aussi des activités comme le conte également. Vous avez plein d'activités cet été et puis depuis quand même plusieurs années là, déjà. Alors oui, ce festival dont la porte-parole cette année est Louise Portal.
Oui, tout à fait, c'est ça. Ben, comme vous disiez, c'est la 8e édition du Festival littéraire des Îles-de-la-Madeleine. Le but de ce festival, c'est finalement de faire des rencontres entre bien des auteurs et autrices connus avec des auteurs des îles. Donc aussi pour partager tout le contenu littéraire bien aux résidents des îles, mais aussi aux visiteurs qui sont là actuellement. Donc on a invité Louise Portal, mais elle est également accompagnée de deux autres personnes. Puis je ne sais pas si je peux les introduire tout de suite, mais on va parler.
Oui, on peut en parler déjà. Et puis de toute façon, vous allez nous raconter un petit peu la petite histoire en même temps. Mais là, on peut parler des gens qui seront là au cours de cette 8e édition.
C'est ça. Donc Louise Portal, pour ceux qui ne la connaissent pas, bon ben, elle est quand même une artiste assez reconnue, multidisciplinaire. Elle a tourné un film d'ailleurs aux Îles-de-la-Madeleine qui s'appelait Les Loups il y a quelques années. Donc ça lui fera plaisir. Ben, elle nous a dit
ça va lui rappeler des souvenirs.
De venir partager son bonheur pour l'écriture.
Ouais.
C'est ça.
Alors on la connaît comme. Elle va être... Bien sûr, comme elle a fait du cinéma, du théâtre, enfin, c'est une grande artiste, là. Et elle se dévoue maintenant aussi à l'écriture. Alors, ça fait partie de l'héritage qu'elle veut laisser aussi.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, bah, l'héritage va se traduire par différentes activités. On va avoir de sa part des conférences, des ateliers d'écriture. On va avoir également des causeries, on va avoir des présentations, bien sûr, d'œuvres littéraires. Donc, elle va nous suivre pendant ces 3 jours, du 28 au 30 juin, sous différents formats, on va dire, qui peut plaire à différentes personnes. Et puis, peut-être, ça sera les mêmes aussi qui reviendront aux activités. Ça va nous faire bien plaisir.
Oui, parce qu'en fait, bon, à chaque année, vous avez quand même des porte-paroles d'importance. Là. L'année passée, c'était Anaïs Barbeau-Laviolette, Lavalette, je m'excuse, hein, c'est ça, oui, c'est Lavalette, oui, c'est ça. Alors, c'était vraiment aussi une porte-parole de choix. Et puis, cette année, Louise Portal, ce sera vraiment quelque chose également. Et puis, donc, c'est vraiment, puis aussi, il faut dire que le site est intéressant en soi. C'est vraiment un beau rendez-vous en même temps, à la fois pour les Madelinos, mais pour les gens qui vont enfin, rendre visite, vous rendre visite au cours de l'été, enfin, entre le 28 et le 30 juin.
Oui, tout à fait. Le site de la côte, faut savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment situé sur un port où bah, les pêcheurs sont en action à chaque matin. Bon, sur l'heure du midi, ils reviennent. Nous, on va être là sur le site, donc à leur côté. Mais également, le site de la côte, c'est un lieu municipal où on va retrouver également des commerces. Donc des commerces, on passe de café, crèmerie, et également bah, cerf-volant. Bref, je ne veux pas toutes les citer, mais c'est vraiment un lieu où on peut s'y amuser, flâner, observer finalement bah, les îles de la Madeleine et les Madelinos et Madeliniennes en action. Là. Donc on est vraiment à faire des activités justement intérieures mais aussi extérieures. Donc là, si j'introduis un des deuxièmes invités de la programmation, qui est Sylvain Rivière d'ailleurs, qui est un des fondateurs du festival dont vous aviez parlé, Cante en île, car à la base, il est conteur originaire de la Gaspésie. Lui, il va nous faire un atelier déambulatoire. Donc, il va amener les gens à finalement s'inspirer des lieux pour écrire, parce qu'il est au lancement en plus de deux livres sur les îles de la Madeleine. Donc, ça fait partie de notre programmation d'amener les gens dehors à découvrir à la fois les gens et les lieux.
Tout à fait. Et puis donc, alors ça, c'est vraiment ça, parce que le conte, c'est une belle tradition chez vous, là, aux îles. Bon, alors de toute façon, je pense que le lieu en soi est inspirant pour ça. Et puis, bon, évidemment, avec des ateliers littéraires. Donc, et quelles sont les autres personnes, là, les autres personnes qui vont faire partie de votre programmation?
Ben c'est ça, notre troisième invité, c'est Claude Michaud. Claude Michaud est musicien et chanteur. Donc, lui, il va venir pour finalement faire atelier d'écriture en lien avec la musique, mais aussi faire un de ses spectacles qui s'intitule Poésie sans frontières. C'est notre spectacle de clôture. Et dans les auteurs madelinos, on en a une dizaine. Je pourrais en citer quelques-uns, mais on a Marie-Claude Bourgeois, on va avoir Claudius de son nom d'artiste. On va avoir Arthur, qui aussi, en fait, elle est sur le site de la côte parce qu'elle a une boutique et une galerie d'art qui s'appelle Le Flâneur. On va avoir Alfia Jonca, Maxime Arsenault. Je voudrais pas en oublier, là.
Non,
mais c'est vrai qu'on a une bonne dizaine.
On a une bonne dizaine d'auteurs, c'est ça, des îles, oui.
C'est ça. Et même des illustrateurs, en fait, de bouquins, comme Dominique Leroux, qui, elle, va offrir une activité jeunesse. Donc, comment concevoir un bouquin, finalement, bon, de petit format, mais initier les plus jeunes, finalement, à l'art d'écrire et de concevoir un livre.
Très intéressant, oui, parce que c'est ouvert finalement à un large public, à autant, comme vous le disiez, les enfants aussi. Il y a une programmation quand même prévue aussi pour vous. Alors, il y a quand même des réservations à faire, là. Si, en fait,
oui,
il y a des
oui,
billets
c'est parfait.
Oui, pour accéder à certaines activités.
Oui, c'est certain, c'est que ben, comme les ateliers d'écriture ou certaines activités, même on parle de causerie déjeuner, on parle aussi d'une activité bénéfice qui est un cocktail dînatoire. Ces activités-là, vaut mieux s'inscrire parce que les places sont limitées. Ce sont les activités qui sont payantes. Mais il y a des activités non payantes, comme par exemple aussi l'atelier d'inspiration déambulatoire qui il vaut mieux réserver. Pour ce faire, ben, on a nos réseaux sociaux, mais on a aussi notre site web donc qui vous renvoie sur une billetterie en ligne. Et si vous vraiment vouliez, vous êtes aux îles, vous aviez envie d'acheter, appelez-nous et puis nous on est au site de la côte et on se fera plaisir de vous accueillir avant l'événement et pendant l'événement.
Parfait, c'est justement la question qu'allait vous poser Nathalie. Oui, comment on se procurait les billets sur le web, il n'y a pas de problème, on vous trouve facilement. Et puis bon, vous existez depuis combien de temps? C'est la 8e édition, là. Alors, ça veut dire que ça a commencé quand même l'idée de départ, là. Comment c'est parti, là, de penser à ce festival littéraire?
Bah, comme je vous le disais, c'était finalement de créer une rencontre. C'est avec un des libraires aux îles de la Madeleine qui existe encore aujourd'hui, qui a fondé l'île aux livres. Et d'ailleurs, un de ses collègues va participer à la programmation sur une causerie. C'est vraiment, ça a été d'offrir ce rendez-vous entre les auteurs des îles, des auteurs de l'extérieur, et les résidents et visiteurs des îles La Madeleine autour de une thématique littéraire. Ceci avant l'été, ben, on avait envie de le faire pas en plein été, parce que comme vous disiez, il y a énormément d'activités aux îles La Madeleine toute la saison
estivale.
Donc c'est ça, c'est d'inviter les gens un peu avant l'été, quoique il est vraiment là, à profiter de cette programmation.
Oui, parce que bon, il y a, on parle de cinéma, mais il y a le Festival de cirque des îles qui s'en vient au mois de juillet, du 18 au 24 juillet. Il y aura le Festival acadien. Il y avait un festival de court-métrage, mais je pense que là, c'est terminé au moment où on se parle. Et donc, le Festival acadien aussi du 3 au 15 août. Et plus tard aussi, à venir en septembre, le Festival international Conte en île. Alors voilà, et ce sera donc... c'est de belles... En fait, des belles activités, évidemment, à faire là, quand on vous visite aux îles. Et pour les Madelinos aussi, c'était un beau rendez-vous à chaque année. Alors, très intéressant de passer par là. Et puis, bon, alors, comment ça se passe aux îles de ce temps-là? Bien, pour, évidemment, d'année en année, là, les touristes sont toujours au rendez-vous.
Oui, tout à fait. Et puis, j'aimerais rebondir un peu sur ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a énormément d'activités, mais qui sont chapeautées par différents organismes. Et sur le site de la Côte, c'est la Corporation portuaire de Lens qui, elle aussi, fait ce festival littéraire, mais également des musiques au coucher de soleil. Donc, c'est tous les soirs, c'est gratuit. Et là, c'est des artistes des îles, musiciens, qui sont présents pour justement le bonheur de tous. Et puis, actuellement, devant moi, j'ai par exemple des personnes en vélo électrique qui profitent
Oui, parce qu'il y a de beaux sentiers pédestres.
On a beaucoup de monde.
Ouais,
de
pistes cyclables.
De Madeleine. Ouais. Et puis, on en a encore beaucoup à venir, donc on est bien content de les recevoir avec toutes ces activités.
Parce qu'au départ du site de la Côte, justement, alors on a des sentiers pédestres, des pistes cyclables, enfin, on peut prendre de l'air très, très facilement aux îles avec eux, oui. Alors, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce Festival littéraire des îles, 8e édition, sous le thème de passage. Hein. Alors, évidemment, on parle de transmission, d'héritage, et Louise Portal, d'ailleurs, la porte-parole est tout à fait dans cette mouvance-là de la transmission, de l'héritage. C'est vraiment, et tout le plaisir de créer. D'ailleurs, elle sera accompagnée de son conjoint avec qui elle partage ce plaisir là, de créer. Alors, vraiment très intéressant. Merci d'être venue nous en parler. Alors, oui, c'est ça. Alice Pierre, ça a été organisatrice événementielle sur site de la Côte. Alors, bon été à vous.
Ben, merci beaucoup. Et puis, au rendez-vous, soyez là entre le 28 et le 30 juin au site de la Côte.
C'est parfait. Merci. Alors, je vous dirais, je serai là, mais enfin, ça va être difficile cette année. Mais une autre fois, certainement.
L'année prochaine.
Au revoir, au plaisir.
À bientôt. Bye bye. Bye bye.
Vous écoutez Aime l'été.
Alors, oui, bonjour. Alors, Nathalie, on va parler ensemble. D'abord, petite note à l'effet qu'on va parler du balado Beau Dommage, la face cachée de l'album, ce balado présenté sur la plateforme audio de Radio-Canada. Et puis, on en a parlé quand même pas mal ces temps-ci,
ouais.
Parce que c'est les 50 ans de cet album mythique, évidemment. Alors, ça a parti la carrière de Beau Dommage. Et oui, ça a été spectaculaire, d'ailleurs.
Tu as écouté les balados?
Oui, tout à fait.
Incroyable.
Et d'ailleurs, bon, tous les palmiers, tous les bananiers, hein, tu sais, je pense qu'ils ouvraient toujours leur spectacle avec ça. Et puis vraiment, c'est... Et puis, il y a beaucoup d'événements de... Ben, justement, il y a beaucoup cette année de... il y a beaucoup des anniversaires comme ça. Je pense l'album d'Harmonium aussi, ça fait 50 ans, l'album Harmonium d'Harmonium, là. C'est ça, donc. Et puis, bon, je pense aussi à plein d'anniversaires qu'on célèbre. Et puis, tu as des anniversaires à nous donner.
Oui, mais juste pour parler de Beau Dommage, il y a 50 ans aujourd'hui, le 25 Malheureusement, tu sais, à Montréal, il y a une fresque, il y a un...
Oui.
Bon, alors, elle a été vandalisée.
Vandalisée.
Ouais, elle a été vandalisée. Écoute, ça a créé tout un émoi dans le quartier où la toile a été faite.
Oui. C'était sur la rue Saint-Vallier, je pense.
Exactement.
Ben oui. Alors, exactement. C'était d'ailleurs 67, c'est 67-60 Saint-Vallier, quelque chose comme ça.
Montréal.
Ça, c'était le quartier général de Beaudommage à l'époque. Et c'était évidemment aussi en même temps le 67-60 Saint-Vallier à Montréal. C'était l'adresse réelle de Robert Léger, d'ailleurs. Et puis, il trouvait que ça sonnait bien, 67-60 Saint-Vallier. Alors, il a mis ça dans la chanson, dans un des textes. C'est ça, tous les palmiers, tous les bananiers, enfin, bon, bref.
Mais ça faisait 48 heures, en fait, que la murale avait été dévoilée, puis ça a été vandalisé.
Depuis, quand même, ça fait un petit moment, mais est-ce qu'on l'a refait, à ta connaissance?
Oui, ça a été refait.
Oui, elle
est présente.
Mais c'est vrai qu'au début, ça avait été vandalisé.
Oui, puis en fait, la murale représente la pochette de l'album.
Oui.
Puis c'est ça, 67-60 rue Saint-Vallier.
Oui.
On parlait de naissance, on parlait d'anniversaire tantôt.
Oui.
Alors, aujourd'hui, le 25 juin, c'est l'anniversaire aujourd'hui du réalisateur Denis Arcand. Michel Tremblay. Robert Charlebois.
Michel Tremblay qui, en fait, s'est beaucoup reconnu dans l'album de Beaudommage.
De Beaudommage.
Oui, et je pense qu'il leur avait écrit d'ailleurs un mot pour leur dire à quel point, parce qu'il célèbre en même temps la Montréalité, et c'est ce qu'a toujours fait Michel Tremblay, finalement.
Oui, exactement. On le voit très bien dans ses pièces de théâtre.
Oui,
Michel,
c'est ça. Ouais. Donc, il se reconnaissait beaucoup dans l'œuvre, dans le travail de Beaudommage.
Oui. Et dernier anniversaire, qui aurait été en fait l'anniversaire aujourd'hui de Michel Côté, qui est décédé malheureusement le 23 mai à l'âge de 72 ans, mais il était né le 25. Michel Côté, qui est un acteur...
Bien sûr, fabuleux.
Fabuleux, ouais. Fabuleux.
Et puis, c'est ça. Puis, il n'y avait pas Charlebois aussi, un anniversaire?
Effectivement, Robert Charlebois, l'anniversaire de Robert Charlebois.
Bon, d'accord. Bon, alors, de toute façon, on a parlé, évidemment, du Festival littéraire des Îles. Ça nous a rappelé qu'on est allé, évidemment, toi, tu n'es pas resté très longtemps. Je pense que tu étais
en
transit. Là.
Ouais.
Tu étais simplement...
Je devais aller en Gaspésie. Il y avait trop de vent. Alors, on a fait un long détour. Puis j'ai eu le privilège d'atterrir aux îles de la Madeleine. Et j'y suis restée 24 heures. Bon. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé ça beau. Je prévois y retourner. Peut-être
tu
cet
vois,
été.
Moi, je suis allée avec mon fils quand il avait 5 ans. Et puis, alors, on avait pris tous les moyens de transport. Cela dit, j'avais loué un petit avion pour survoler les îles. Et au moment où on survolait les îles, le pilote a dû faire des tours au-dessus de l'océan parce que quelqu'un s'était noyé. C'est-à-dire qu'on présumait que quelqu'un s'était noyé.
Oui.
Il était disparu, alors on faisait des recherches. Et bon, à part le mal de cœur, évidemment, c'était mon mal de cœur, c'était pas important, là. Mais alors, justement, parlant de sécurité nautique, on va parler avec un des grands porte-parole de sécurité nautique dans un instant. Alors, on vous revient après la pause.
Thank you.
Alors, de retour cette fois, on parle de sécurité nautique avec Reynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec. Enfin, vous êtes impliqué là-dedans depuis au moins 35 ans. Je ne veux pas vous vieillir, malheureusement, mais vous êtes un, ça fait partie d'eux. Hein. Vous êtes un pionnier dans la lutte contre les noyades au Québec. Et vous le dites, une noyade, c'est une de trop. Et vous êtes devenu un véritable pédagogue. On vous connaît. Vous êtes sur toutes les tribunes, bien sûr. C'est vous qu'on appelle là, pour parler de sécurité nautique. Alors, justement... qu'est-ce que vous avez remarqué depuis toutes ces années là? Vous avez fait beaucoup de travail, vous avez été impliqué sur le terrain avec des familles endeuillées, vous avez essayé de comprendre le pourquoi des noyades, tout ça, puis vous continuez encore à faire ce genre de travail-là, de prévention.
Bonjour.
Bonjour.
Vous savez que à l'origine de ma formation, je suis un enseignant. OK, donc une personne qui a une formation universitaire en éducation physique et ce qu'on appelle maintenant éducation physique et à la santé.
D'accord.
Pour moi, c'est une façon d'éduquer, de sensibiliser la population plutôt que de me retrouver dans un gymnase ou dans une classe. J'étais déjà impliqué comme sauveteur dans la région des Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts. J'ai voulu devenir un gestionnaire et la société de sauvetage m'a permis de vivre cette expérience-là. En devenant ce qu'on appelle le directeur des programmes et en 1990, le directeur général. Et qui dit direction générale dit planification, dit établir une mission, une vision, valeur, tout le langage qu'on connaît maintenant en termes de gestionnaire. Et on s'est dit, bien, si nous, notre mission, c'est de sauver des vies, de prévenir la noyade, bien, on va aller comprendre où elles se produisent, ces noyades-là. Et c'est ce qui fait qu'en pratiquement 40 ans, on est quand même passé de 200 décès liés à l'eau par année au Québec.
Oui, c'est ça, en 1980, il y en avait 200, là, c'est à peu près 80 en moyenne.
Et il y a beaucoup. 40 ans, je n'avais pas 1,2 million de plaisanciers, 750 000 de propriétaires de piscines résidentielles et je ne sais plus combien de plans d'eau disponibles.
Exact.
Donc, somme toute, il y a des réductions qui ont été réalisées. Personne ne va vous appeler pour pouvoir dire « Ah, grâce au conseil de sécurité, ça fait que je suis capable encore de vous écouter. » Mais moi, ce que je sais, c'est qu'une noyade, c'est déjà une de trop.
Mais oui.
Parce qu'elle est évitable lorsqu'elle est d'origine récréative et sportive. Et encore ce matin, les médias m'ont interpellé parce qu'un kayakiste s'est malheureusement chaviré. Maintenant, la grande question, avait-il, oui ou non, une veste de flottaison? Personne n'est capable de me répondre à cette notion-là. Donc, il faut travailler, continuer à travailler. Et ça fait partie de ma passion.
Oui, c'est ça, Nathalie.
Vous parlez des noyades et des décès, mais il y a quand même des gens qui, plonge dans des bassins peu profonds, mais qui en gardent des séquelles graves. Est-ce combien il y en a par année, d'accident-là?
Oui, bien, faites bien de poser la question. On évalue qu'il y a entre 12 et 15 personnes, plus souvent qu'autrement genre masculin, plus souvent qu'autrement moins de 25 ans.
Plus téméraire.
Il y a cette notion-là de témérité. Okay. J'ai été capable de le faire pendant bien des fois. Pourquoi cette fois-ci? Ce qu'on sait, c'est que la majorité ont lieu dans la partie peu profonde ou dans la fameuse pente de la piscine creusée. Et vous l'avez si bien dit, ça ne pardonne pas ça non plus. On n'en a pas tant que ça au niveau des bains publics, ce qui est une bonne nouvelle, malgré qu'on forme les sauveteurs à bien réagir si jamais ça arrive. Et pour ce qui est des endroits, ben, on vous dit, si ça n'a pas été aménagé pour le plongeon, vous ne devriez jamais considérer cette entrée-là. Plutôt entrée pied premier, c'est beaucoup moins risqué. Et plusieurs ont des séquelles permanentes.
Oui.
D'autres réussissent à avoir une certaine forme de réhabilitation. Du moment que ça touche à ce qu'on appelle la C1, C2, C3, là, malheureusement, c'est toute la dextérité que vous allez perdre du bas des jambes et certainement au niveau manuel.
J'ai rencontré un jeune homme, justement, qui avait plongé dans un lac peu profond. Et puis, sa vie a été transformée du jour au lendemain. Jeune homme téméraire qui aimait les activités, il était avec une gang de chums, il a plongé, puis quadriplégique aujourd'hui.
C'est ça, oui, j'en connais aussi.
Il faut faire attentif.
Oui, c'est ce que je dis tout le temps. Prenez le temps de suivre nos conseils de sécurité, comme ça, vous allez avoir des anecdotes à raconter plus que des drames à vivre ou à faire
vivre. D'ailleurs, je pense que c'est ça, il y a des gens qui font des témoignages, qui vous écrivent pour vous remercier, parce que finalement, ça les sensibilise, et puis grâce à vous, finalement, ça modifie leur propre comportement. Alors, il y a plein de choses à savoir. Bon, vous avez été vous-même sauveteur. Il y a les piscines publiques, évidemment, il y a des cadres. Bon, ça va de soi, mais c'est pour les piscines résidentielles. Ça, c'est autre chose, plus difficile. Il y a des règlements, d'ailleurs, qui ont été mis en place. Là, il y a un nouveau règlement qui s'en vient, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à 2025 pour se conformer, pour faire clôturer notre piscine résidentielle, même si notre terrain est clôturé, là, il faut ajouter une clôture.
Oui, vous savez, nous, on travaille avec les coronaires. À chaque fois qu'il y a un décès, que ce soit un enfant ou une personne plus âgée, on travaille avec les coronaires et on travaille avec une grille d'évaluation qui nous dit où est-ce qu'on serait le plus efficient. Et dans le dossier des piscines résidentielles, la démonstration a été faite qu'il faut contrôler l'accessibilité, puisque la majorité des décès liés à l'eau chez les jeunes enfants d'âge pédiatrique, là, 0, 4 ans, là, préscolaire, si vous aimez mieux, c'est toujours à l'insu même du papa ou de la maman ou de l'adulte qui en a la responsabilité. Et on dit, à partir du moment où on va ceinturer, que ce soit la piscine hors terre attenant au patio, la piscine creusée dans la cour arrière, l'accessibilité par une échelle, le tout doit être contrôlé. Ça, on va continuer à réduire. Le gouvernement a fini par emboîter le pas en 2010 en disant que toutes les nouvelles installations depuis 2010 devraient être conformes à ce principe-là de la rendre inaccessible. Maintenant, mais depuis que Mme Laforêt, la ministre des Affaires municipales, elle a changé la donne pour ceux et celles qui avaient un certain droit acquis. En matière de sécurité,
les
ça n'existe pas là,
non, pour moi.
Et c'est ce qui fait que vous avez jusqu'au 30 septembre 2025 pour vous conformer. Et moi, ma meilleure recommandation que je peux vous faire, là, attendez pas à l'été 2025.
C'est parce que là, les
gens ne seront pas disponibles.
C'est sûr qu'il y aura des problèmes de disponibilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a même reporté un peu l'échéance.
Absolument. Ouais.
Mais là, je pense qu'il y a encore des gens qui ne vont pas nécessairement se conformer tout de suite parce que ça entraîne des coûts importants, il faut le dire.
Forcément.
Est-ce que c'est réaliste que tout le Québec puisse se conformer comme ça?
Forcément, ça a un coût. Puis vous n'avez pas idée du nombre de messages que je reçois pour dire, ben voyons, moi, mes enfants sont grands, j'en ai plus de besoin. C'est pas juste pour les enfants qu'on parle de ça. On a une population vieillissante. Malheureusement, ceux et celles qui souffrent de certaines maladies telles que l'Alzheimer, on les retrouve dans la piscine arrière-cour, tout habillés. Donc, ils n'avaient pas l'intention d'aller se baigner.
Vous n'avez pas tort là-dessus. Là. Effectivement, on ne pense pas nécessairement à cette clientèle-là d'emblée. Alors, moi-même, qui vis dans une municipalité où il y a beaucoup de piscines, beaucoup de gens sont un petit peu, effectivement, sans connaissance d'avoir à débourser autant d'argent, là, parce que parfois, ça crée des maux de tête, aussi de configuration, tout ça. Mais enfin, il faut toujours trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les enfants, mais aussi les gens en perte d'autonomie, des gens plus âgés.
On le voit de plus en plus, nous, dans nos données sur les coronaires. Puis vous savez quoi? C'est pas moi qui le dis, c'est l'hôpital, le centre avec l'Université McGill pour enfants qui nous a démontré il y a à peine 3-4 semaines que chaque fois qu'on a eu une noyade une noyade mortelle au Québec, il y en a eu 10 qui se sont retrouvés à l'hôpital.
Okay,
donc, depuis le 21 juin, un enfant par jour va aller dans un centre hospitalier d'urgence parce qu'il souffre d'une noyade, soit mortelle ou non mortelle. Donc, il faut être vigilant.
Aussi, bien, évidemment, la formation, là, c'est sûr que c'est très important. Je pense même en bas âge, pendant la pandémie, on sait que les enfants n'ont pas eu nécessairement accès toujours à un cours de natation. Ça retarde. Ça, c'est vraiment le danger principal, que les enfants ne puissent pas nager. Ça, il faut le faire dès... Mais tout le monde n'a pas accès encore toujours à des cours de natation.
Vous avez raison, c'est un défi. L'OMS a publié en 2014 10 recommandations suite à son rapport mondial sur les noyades, et apprendre aux enfants d'âge scolaire les rudiments de la natation et de la sécurité devrait être partie intégrante de toutes les sociétés membres de l'OMS. Nous, on le fait au Québec dans une approche volontaire avec Nager pour survivre, avec les élèves de 3e ou de 4e année, où on les invite à venir à 3 séances d'une heure dans la piscine de quartier. Ce qu'on souhaite, c'est qu'éventuellement, ça devienne obligatoire. Ça, c'est clair. Le défi qu'on a, c'est que la pandémie, on a arrêté pendant l'équivalent d'une session printanière. Donc, tout l'engrenage pour former les futurs moniteurs de natation, les futurs sauveteurs, tout s'est arrêté. La bonne nouvelle, c'est qu'on reprend le dessus.
On reprend le dessus, tant
mieux.
On
reprend le dessus avec le programme de la gratuité de Mme Isabelle Charest, qui est responsable du loisir du sport du plein air. On voit une augmentation. On est passé du simple au double. C'est aussi simple que ça. Puis j'ai dit encore ce matin, je me retrouve à peu près durant les mêmes années où j'avais une émission à la télévision qui s'appelle Baywatch, Alerte à Malibu. OK?
Ouais.
Alors donc...
Tout le monde veut devenir sauveteur.
Oui, tout le monde veut devenir sauveteur. C'est ce qui est en soi encourageant. Oui,
parce que ça prend des enfants qui savent nager, il faut, bien sûr. Alors, il y a de multiples causes pourquoi on se noie au Québec. Alors, évidemment, vous faites de la sensibilisation à ce niveau-là. Ben, merci bien d'être venu nous en parler, M. Hawkins. Très important ce que vous faites, vous le savez. Et puis, il faut continuer tout le temps. Merci infiniment.
Merci de l'invitation. Bon été à tout le monde.
Eh bien, on accueille tout de suite Guylaine Marois. On a eu un petit peu de mal à la joindre puisqu'elle est en France. Alors, c'est sûr que la ligne, c'était un petit peu difficile. Bonjour, Guylaine Marois.
Bonjour, Nathalie.
Ah, parce que moi, je suis Chantal, mais Nathalie est à côté
de
moi.
Je suis là aussi.
Alors, les deux sont là. C'est parfait.
Bonjour,
alors,
Chantal et Nathalie.
Aucun problème. Guylaine Marois, vous êtes l'idéatrice, productrice en même temps, conceptrice du balado Beau Dommage, la face cachée de l'album qui est disponible sur la plateforme audio de Radio-Canada. Alors, c'est déjà disponible. On peut l'écouter là en rafale. Il y a plusieurs épisodes, bien sûr. Et puis, on décortique... en fait, c'est votre idée d'amener... Vous avez eu un accès privilégié aux pistes, aux archives de cet album, en fait, cet album mythique, qui est le premier album de Beau Dommage, qui s'intitulait Beau Dommage, voilà.
Et puis, Beau Dommage, oui.
C'est ça. Et puis, donc, vous avez eu cette idée-là parce que je pense qu'il y a un lien avec Paul McCartney qui avait fait un peu la même chose, qui avait retrouvé des pistes comme ça, des copies de travail, au fond. Et et puis qu'il a commenté, il a pris connaissance de ces documents-là, et puis on l'a, ben, je pense qu'on l'avait filmé. C'est un document, c'est un documentaire, là, c'est, tandis que vous, c'est audio. Mais vous avez réuni oui. l'équipe de Beau Dommage autour de ces archives-là. Alors, c'est vraiment votre idée, là.
Oui, en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose sur Beau Dommage parce que je trouve que c'est un groupe extrêmement inspirant. Et non seulement à cause de la musique, mais je trouve que leur idée de... Enfin, ils ont créé un collectif. C'était une époque aussi où au Québec, tout était possible. Puis je trouve que c'est un peu le contraire de notre époque, tu sais, de collaborer, de croire qu'on peut vraiment faire de grandes choses ensemble.
C'est ça, c'est un travail collectif, hein, c'est ça.
Ouais,
c'est beaucoup de lumière en même temps.
Il y avait une joie aussi, il y avait comme une espèce de joie. Les horizons étaient ouverts à l'époque, donc ça m'inspirait. Je voulais faire un documentaire d'archives, mais problème, il n'y a pas beaucoup d'archives de Beau Dommage. Il n'y en a presque pas d'images d'eux. Mmh. Et puis, à un moment donné, je suis tombée sur une série où Rick Rubin, le producteur, fait écouter à Paul McCartney les pistes séparées de grands succès, en fait, des Beatles, mais aussi de la carrière de Paul McCartney. Et la réaction de Paul McCartney m'a étonnée, surprise. Il était vraiment ému, puis il était capable de revenir au moment de la création de la chanson. Puis pourtant, tu sais, Paul McCartney en a parlé des chansons au fil des 60 dernières années. C'est fou tout ce qui s'est écrit sur les Beatles. Mais là, je trouvais que c'était plus émotionnel. Alors, j'ai essayé de voir, est-ce que ces bandes-là sont disponibles pour Beau Dommage aussi? Parce que c'était pas une évidence. Puis aussi d'y avoir accès, puis d'avoir toutes les autorisations. Donc, et ça a été possible, puis c'est vraiment grâce à la participation de la compagnie Disque, qui est maintenant Universal, éditeurs, évidemment, de Beau Dommage.
Ça vous prenait
les
droits.
Tous ces membres de Beau Dommage qui sont tellement généreux.
Et vous avez, tout à fait, ils ont fait preuve d'une grande générosité parce que vous les avez réunis, je pense même parfois individuellement. Alors, c'est quand même 30 heures de matériel audio que vous avez réuni pour ce balado, réalisé par Sarah Fortin aussi. Vous avez travaillé et collaboré avec elle pour ce projet.
Oui.
Donc, c'est tout de suite, votre idée a charmé l'équipe, dont Michel Rivard, qui a été vraiment tout de suite charmé par votre idée, puis les autres membres. Alors, vraiment, c'est un beau projet. Puis à chaque fois, là, on décortique chanson par chanson.
Exactement. Puis je dois vous dire aussi que ça a tellement pris de temps. Ça, j'ai commencé en 2014. C'est le premier pitch que j'ai fait au groupe, c'était en 2014, autour d'un souper que Pierre Huet, qui est parolier du groupe, avait organisé. Donc, et ça a été au fil des années, bon, il y a eu plusieurs itérations de ce projet-là. Puis au moment de le réaliser, j'ai eu le go de Radio-Canada pour faire une balado grâce à Caroline Jamais, qui est la directrice. Et là, j'étais plus capable de réaliser parce que je m'en allais réaliser un autre film.
Mm-hmm.
Et là, j'ai approché une boîte et Sarah Fortin, qui est une grande mélomane, elle aussi, parce que ça prenait une réalisatrice ou un réalisateur qui avait cette sensibilité-là. Puis avec un monteur aussi qui s'appelle Maxime Veilleux, qui est musicien.
Ouais.
Et l'idée, c'est vraiment de faire, on fait écouter des bouts de musique à chacun des membres du groupe. Et c'est le souvenir qui remonte à la surface. Et c'est drôle parce que les membres du groupe n'ont pas les mêmes souvenirs. C'est pour ça qu'on les a faits séparément. Et c'est ce qui rend le truc intéressant aussi. C'est plusieurs perspectives sur une même réalité. Puis aussi, il y avait quelque chose d'émouvant, d'émotionnel là-dedans. Puis c'est le beau trip de la musique et d'entendre, par exemple, les voix, juste leur voix, tu sais, les fameuses harmonies vocales de Beau Dommage, entendre a cappella, c'est absolument magique.
Ben oui, c'est
magique.
Ça, d'ailleurs, on parle de, pratiquement, c'était comme de les entendre, il y a un des membres qui dit que c'était comme un arc-en-ciel, finalement, d'entendre ces harmonies-là, ces voix ensemble, c'était vraiment magnifique. On va écouter un extrait, si vous voulez bien, Guylaine Marois.
Oui, merci.
Je dois concéder que c'est une grande réussite d'ouvrir un album avec ça. Ça part. Ça part l'affaire, puis ça fait attention, vous avez jamais entendu ça.
Mesdames et messieurs, Beau Dommage!
Il me semble qu'on a ouvert beaucoup, 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 beaucoup de spectacles avec tous les paniers. Ça ouvrait tellement bien. C'était tellement
on est beau dommage, c'est ça qu'on fait. C'est une tune qui dit ça.
M'arriver en ville jeudi midi.
En 1974.
Alors c'est ça. Donc c'est truffé d'anecdotes. Bon, évidemment, oui. Chacun y va de son commentaire. Tout le monde avait la tête à la même place, comme le dit Michel Rivard. Alors c'est toute une époque en même temps.
C'est toute une époque et c'est aussi ces chansons-là. Elle nous accompagne, chaque Québécois, puis de génération en génération, parce qu'il y a des jeunes qui ont 15, 20 ans et qui connaissent ces chansons-là, parce que ça fait partie de notre ADN. Alors, moi, j'ai reçu là, dans la dernière semaine des messages de partout, de gens qui me disent le plaisir, le bonheur qu'ils ont à écouter ce balado.
Parce
qu'ils ont écouté ces chansons-là, tu sais, puis ça fait partie de nous.
Mais
et,
oui.
Puis évidemment, ils ont été tellement généreux, puis ils nous racontent plein de choses, puis ça nous fait plonger dans l'époque.
On écoute ça sur la plateforme audio. Merci, Guylaine Marois. Malheureusement, on aurait pu vous parler plus longuement, mais enfin, le hasard a fait qu'on doit vous laisser partir maintenant. Alors, je reparlerai de votre parcours de toute façon. Alors, au revoir.
OK, merci infiniment.
Merci. Alors, c'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, entre midi et 13h, Aime l'été. Et merci encore à Nathalie Barrette d'avoir été avec moi aujourd'hui. Elle le sera d'ailleurs, de toute façon, tous les jours. Clarence Robitaille-Meloche, notre autre collaboratrice à la recherche. Alors, je vous retrouve demain. Soyez prudents dans vos déplacements. Et puis, au revoir.